Un jour, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus dit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui répondirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. Mais au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur répond « Celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est coupable d'adultère envers elle. Si une femme a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle est coupable d'adultère. » On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Et il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Nous voici d'un coup renvoyés à la vie bien concrète par l'Évangile. Cette vie où nous éprouvons parfois la distance qui existe entre ce que nous voulons vivre et ce que nous vivons réellement. Et oui, la parole de Dieu est là pour venir appuyer sur le bon bouton, pour venir appuyer justement sur les points fragiles, sensibles de nos vies, pour nous inviter à avancer. Il n'y a pas à chercher très loin ce matin pour nous sentir concernés par le sujet de l'échange de Jésus avec les pharisiens. Chacun de nous, moi aussi, nous connaissons des personnes séparées, divorcées, parfois divorcées et remariées, au sein de nos familles, parfois les plus proches, de nos amis, de nos collègues de travail. Et peut-être, bien sûr, parmi nous, certains ont encore le cœur meurtri d'un échec affectif, amoureux, d'une manière ou d'une autre. Et bien entendu, nous sommes tous les bienvenus ce matin à l'Église. Mais je crois qu'on aurait tort de ne voir dans les paroles du Christ qu'une question de morale, de simple consigne morale pour le couple. Il me semble que le Seigneur nous invite à revenir à la Genèse, au commencement de son projet sur l'homme et sur la femme. Il nous faut humblement recevoir, analyser les paroles du Christ, sans en amoindrir la portée, nous remémorer ensemble ce que la Sainte Trinité a de tout temps souhaité pour l'homme et pour la femme. Oui, Moïse avait permis que l'on répudiât sa femme. En réalité, il avait réglementé le divorce, qui était déjà en usage à l'époque, obligeant l'homme qui répudiait sa femme à lui remettre en main, devant témoin, un acte écrit la déclarant libre de tout lien conjugal. C'était une manière de compliquer un peu les choses pour ne pas que le divorce se répande. À l'époque du Christ, il faut rappeler, sinon on ne comprend pas l'Évangile, qu'il ne suffisait de pas grand-chose pour que la femme soit répudiée. Un défaut physique ou moral, la décision arbitraire d'un mari, et on mettait son épouse à la porte avec soi-disant la bénédiction de Dieu. Loin d'attaquer Moïse, le Christ nous rappelle combien ce patriarche a donné cette permission au nom de Dieu, car le cœur de l'homme s'était endurci. Et c'était vraisemblablement pour protéger la femme que Moïse avait autorisé cette répudiation assortie d'un acte officiel devant témoin, pour en limiter le nombre. Mais cette permission divine ne relève pas directement de la volonté de Dieu. Et n'en déplaise les médias, il faut le redire régulièrement. Si l'on veut retrouver la volonté de Dieu dans toute sa pureté, il faut revenir au temps des origines avec Jésus, à cette intention divine, donc de la Sainte Trinité. L'homme, dit Jésus, quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Alors je le sais bien, je l'entends tous les jours, et y compris dans ma propre famille. L'atmosphère factice dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avec une survalorisation de l'émotion, une forme de sensibilité exacerbée, fait qu'il est de plus en plus difficile pour les couples de rester fidèles. Et bien sûr, dans mes paroles, il n'y a aucun jugement sur les hommes et les femmes, que ce soit vous ou ceux qui sont à l'extérieur de cette église. N'empêche, depuis les origines, l'union de l'homme et de la femme constitue l'image la plus parlante de l'alliance entre Dieu et l'humanité, une alliance indissoluble, indéfectible. Si vous plongez dans le livre de la Genèse, vous verrez bien qu'Adam était heureux, Ève était heureuse, il y avait une vraie complémentarité dans l'unité, mais à partir du péché originel, Ève va se couvrir, c'est bien sûr un symbole, elle va avoir peur qu'Adam l'agresse, va avoir peur de sa force, de sa puissance. Adam, lui, va craindre la séduction de sa femme, la division est entrée dans le monde. Mais si l'homme est créé à l'image de Dieu, nous devons retrouver cette image ensemble et tenir bon dans nos familles. Ish et Isha. L'image et la ressemblance de Dieu, c'est l'homme et la femme ensemble. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous laissera Jésus un peu plus tard dans l'Évangile. Comme Dieu s'aime, nous pouvons nous aimer, le couple et cette école de l'amour, pour aimer comme Dieu aime. Alors j'aimerais ce matin, pour encourager toute l'assemblée, parents, enfants, pour que nous puissions cette année, à l'occasion de ce synode, resserrer les liens de la charité, continuer à protéger la famille, petite église, comme disait Jean-Paul II, donner trois axes de réflexion sur ce qu'est la famille. Tout d'abord, redire que le chef-d'œuvre de Dieu, qu'a été le couple, a été brisé par le péché originel. Nous sommes certes des miroirs de Dieu, mais ces miroirs sont fêlés. Même Saint Joseph avait une fêlure en lui. La seule qui ne l'était pas, bien sûr avec le Christ, c'est la Vierge Marie. D'ailleurs, cela devait être merveilleux d'être à côté de Marie, femme parfaitement unifiée. Et j'aimerais vous redire ce matin les fragilités de l'homme et de la femme sur lesquelles nous sommes invités à nous protéger, à être gardiens les uns des autres. Les trois fragilités de l'homme, tout d'abord. La sexualité, je ne développerai pas, mais vous savez bien, messieurs, que nous sommes tous fragiles depuis le péché originel sur cet aspect-là. On pourrait évidemment donner tout un tas d'exemples, ce n'est pas l'objectif de cette homélie, mais je suis toujours touché quand j'entends des couples me dire « Vous savez, mon père, mon mari s'est confié à moi récemment, il m'a dit que c'était dur, parce qu'en ce moment, au boulot ou dans la vie associative, eh bien, il était tenté. Et plutôt que de chercher à me le cacher, il m'a dit « Ma chérie, c'est toi que j'aime, prie pour moi, car j'ai du mal à le porter en ce moment. » Deuxième fêlure, l'argent. Il y aura toujours, en particulier chez l'homme, une tentation d'exister à travers l'argent. Je le redis, l'argent est un très bon serviteur, mais un mauvais maître. Troisième fragilité, le pouvoir, la puissance. Vous le savez peut-être, l'homme a, j'ai vérifié, 23% de muscles de plus que la femme. Le chiffre n'est pas passionnant, mais il nous rappelle quand même que l'homme a quelque chose d'une fierté qui est bonne et juste, en tout cas qui peut l'être, d'être fort, de savoir porter. Il y a quelque chose qui a été donné par le Seigneur. La femme d'ailleurs aime se sentir en sécurité auprès de l'homme. Simplement le pouvoir, y compris dans le monde de l'entreprise et même de l'Église, peut-être une perversion, peut-être une tentation forte. Il faut savoir la repérer et nous protéger les uns les autres. Les fragilités de la femme, le besoin bien légitime de se sentir aimée, ce qui est différent d'être aimée, bien sûr. C'est pour cela que la femme aura besoin d'entendre son mari lui dire « Aime-moi, est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ?» Je disais récemment lors d'un mariage, en m'adressant aux jeunes mariés, enfin c'était avant les consentements, donc aux fiancés, je lui ai dit « Tu dois dire tous les jours à ta femme que tu l'aimes, sinon tu ne peux pas venir communier à la messe, parce que le sacrement de l'Eucharistie est le sacrement de l'amour, alors c'est invalide. » Alors il a fait « Bon, ben, je vais essayer. » Voilà, je sais que c'est dur, n'empêche, il y a quelque chose qui est profondément uni entre ces déclarations d'amour et puis le sacrement de la Sainte Eucharistie. Deuxième fragilité de la femme, le rapport à la beauté, le rapport à son corps. Avec cette existence des canons de beauté, la femme a besoin de se sentir belle, d'être reconnue dans sa beauté. Alors, elle se sentira aimée. Le comprendre pour l'aider à dépasser cela. Troisième fragilité de la femme, la parole. La femme, et ça peut être une grande richesse, a cette immense capacité à parler. Je suis toujours impressionné au bord de la mer ou à la piscine, les femmes arrivent à nager en parlant. Ça m'a toujours complètement bouleversé, mais c'est là le mystère de la femme. Mais c'est aussi une force. Encore faut-il, bien sûr, que cette force soit ajustée. Et là aussi, pourquoi pas veiller sur cette capacité. Ce sont ces zones fragiles, bien sûr, c'est un résumé, mais ce sont ces lieux où nous pouvons glisser et nous avons à nous aider, à nous porter, à nous encourager. Nous sommes tous, vous êtes, qui êtes mariés dans l'Assemblée, des couples fragiles. Deuxième porte pour avancer. Continuer, sans avoir peur, à épuiser le mystère de l'autre. Vous ne pourrez jamais faire le tour de votre conjoint. Il y aura toujours quelque chose qui vous échappe. C'est pour cela que Dieu endort Adam avant de créer Ève, parce que l'autre reste un mystère. Nous devons être comme devant une toile à contempler. Contempler la valeur inestimable et chercher avec la grâce de l'Esprit-Saint le scandale des couleurs, les perspectives, l'épaisseur du trait, apprendre à goûter la personnalité de chacun. Le récit de la création d'Ève suscite l'émerveillement d'Adam, trop seul jusqu'alors, et suggère l'appel des époux à s'étonner l'un de l'autre. Le conjoint, je le disais l'autre jour aux jeunes mariés, et l'autre qui est offert comme chemin vers le tout autre, un mystère, non pas une énigme incompréhensible, mais une réalité que l'on n'a jamais fini de comprendre. Et puis, dernier point que je voulais vous laisser ce matin, il nous faut nous rappeler que la création de l'homme ne s'arrête pas à ce cri émerveillé de l'homme devant la femme. Il doit en effet revenir à Dieu, l'auteur de tout don, et s'achever dans le fait de quitter son père et sa mère. Par la conjonction de coordination, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il en découle la profonde relation homme-femme et le fait de quitter ses parents. L'autre, tout en étant chair de ma chair, est profondément autre. Rester chez ses parents, ce qui existe encore longtemps et beaucoup aujourd'hui, rester chez ses parents, c'est donner le flanc à la confusion, assimiler, considérer ou ramener tôt ou tard son épouse à sa mère, sa sœur ou son mari à son père et son frère. C'est d'une certaine manière refuser ce chemin, ce passage entre la découverte de celui qui me ressemble à celui qui me permet de me distinguer de mon origine pour le rencontrer dans son irréductible altérité. Honorer son père et sa mère, c'est les quitter. L'homme n'est pas appelé à donner sa vie à ses parents, même si je le dirai à la fin, il faudra les honorer, bien entendu. L'homme n'est pas appelé à donner sa vie à ses parents, mais à son épouse ou à son époux, au Christ ou à l'Église. La dynamique du don de soi n'est pas réciproque dans l'engendrement, mais elle est conjugale. Mes parents m'ont donné la vie pour que je la donne à quelqu'un d'autre. Cela suppose que mes choix familiaux, que mes choix de vocation impliquent surtout que je ne donne pas ma vie à mes parents. Nous n'honorons pas nos parents quand nous leur donnons notre propre vie, nous les déshonorons. Honorer son père et sa mère signifie quitter son père et sa mère pour se donner à un autre homme ou une autre femme, ou pourquoi pas, bien sûr, à l'Église dans une vocation particulière. Il est fondamental de comprendre que ce départ pour s'attacher à sa femme, que ce mouvement du don de soi, est le véritable accomplissement du commandement de Dieu que nous avons entendu dans l'Évangile. Chers amis, je sais que cela est douloureux, mais si vous avez la grâce d'avoir des enfants, préparez-vous intérieurement à la vraie liberté qui consiste à voir son fils ou sa fille partir. Si vous ne vous préparez pas à cela, vous attendrez de lui ou d'elle une affectivité qu'il ne pourra pas vous donner. On ne crée pas ses enfants pour recevoir une réciprocité. On donne la vie à ses enfants pour qu'il la donne à quelqu'un d'autre. Comme l'énergie que vous dépensez à vos enfants est investie et non retournée vers vous. Pour un fils, il y en a dans l'assemblée, accomplir sa vie, c'est mettre ses parents dans cette situation de détachement. Et parfois, je le sais bien, ma maman a eu deux fils prêtres, ça a été assez compliqué, je peux vous en témoigner. Et parfois, d'arrachement. Jésus, vis-à-vis de sa maman, n'était pas simplement dans un attachement justement désordonné. Jésus, à 12 ans, a dit à Marie, « Je dois être aux affaires de mon père. » Que pense le papa de Thérèse quand elle lui dit « Je veux aller à Rome pour aller au Carmel ?» Il faut beaucoup de grâce de Dieu pour laisser ses enfants partir, partir dans le mariage, partir dans une vocation particulière. Il y a parfois des attachements désordonnés qui font que cela abîme la vie. Le travail d'avancement de sa propre liberté fait qu'on accepte de voir le cœur parfois de ses parents saigner. Honorer ses parents, ce n'est pas les empêcher de souffrir. Jésus n'a pas empêché sa maman de souffrir, souvenez-vous, évidemment, au pied de la croix. Mais au contraire, c'est accomplir sa vocation en reconnaissant qu'il est nécessaire que cette vocation provoque dans leur cœur un détachement. C'est précisément la dernière étape de leur paternité et de leur maternité. On enfante dans la douleur par son corps et par son cœur. Enfin, un petit mot sur honorer son père et sa mère. Je ne l'ai pas dit, je m'appuie ici sur des propos d'un professeur que j'ai eu longtemps au séminaire, le père Alexis Leproux, un homme remarquable, grand exégète devant le Seigneur. Il est fondamental que nous continuions à porter nos parents dans notre cœur et que nous les honorions non pas en fonction de leur qualité, mais de leur réalité. Que jamais nous ne disions « ma famille ne vaut rien », quand bien même elle serait bien abîmée d'une manière ou d'une autre. La famille n'est pas honorée en fonction de ses qualités, mais bien de sa réalité. À corps fragile, honneur plus grand, à situation blessée, amour plus grand. Bien sûr, cela suppose que quelle que soit la situation familiale, y compris quand les parents sont décédés, nous essayons de faire vivre leur mémoire, et par cet honneur qu'on leur accorde, et par la mémoire, nous puissions effacer peut-être une multitude de péchés. Alors, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour les familles qu'il nous a données. Elles sont toutes blessées d'une manière ou d'une autre. Demandons à Dieu, quelle que soit notre situation conjugale aujourd'hui, de venir nous consoler, nous guérir, d'essayer de tenir bon avec le Seigneur, chacun dans son chemin, pour qu'un jour il nous accueille au ciel, dans la gloire de l'éternité, parce qu'au fond, nous aurons essayé d'aimer jusqu'au bout. Amen.